Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi, c'est arrivé aujourd'hui.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Elle est aujourd'hui avec les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Valentine Saboureau revient sur une manifestation pour la paix dont la répression s'est soldée par 9 morts et 250 blessés. Elle a eu lieu en plein cœur de Paris, dans le contexte tendu de la guerre d'Algérie.
Le 8 février 1962, un rassemblement organisé à Paris pour protester contre l'organisation armée secrète OAS et pour la paix en Algérie est réprimé dans le sang. Appelés à faire preuve d'énergie pour disperser les manifestants, les forces de l'ordre chargent en effet ces derniers au point que, précipités dans le métro Charonne, 9 d'entre eux décéderont. Commencée en 1954, la guerre d'Algérie traîne en longueur et son impact est de plus en plus dramatique de part et d'autre de la Méditerranée. Les actions violentes, du côté des nationalistes comme des indépendantistes, se succèdent, avec toutefois leur pendant pacifiste. En 1962, l'OAS, une organisation terroriste clandestine favorable à l'Algérie française, fait particulièrement parler d'elle en multipliant les attentats contre l'administration, les politiques, les intellectuels, les syndicalistes et tous ceux qui soutiennent le Front de Libération Nationale Algérien.
La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences?
Le 7 février, pas moins de 10 plastiquages ont été organisés et à ceux-ci s'ajoute un attentat raté contre le ministre de la Culture d'alors André Malraux, lequel défigure une fillette de 4 ans. C'est dans ce contexte que le Parti communiste et plusieurs syndicats dont la CGT, la CFTC, l'UNEF ou la FEN décident d'une mobilisation faisant fi de l'état d'urgence instauré depuis avril 1961. Prévu pour le lendemain 8 février, le rassemblement invite les travailleurs et tous les antifascistes de la région parisienne à proclamer leur indignation, leur volonté de faire échec au fascisme et d'imposer la paix en Algérie. Il est toutefois interdit par le préfet de l'époque, Maurice Papon. Qu'à cela ne tienne, il sera statique et pacifique. 5 cortèges doivent se rejoindre sur la place de la Bastille pour écouter une intervention. C'est le programme établi qui va finalement dérailler. De fait, les forces de police ont été mobilisées en nombre et les consignes de fermeté ont été claires. Il faudra procéder au brassage et à la dispersion des manifestants en se montrant actifs et en faisant preuve d'énergie. Les hommes sont bien équipés.
Je me souviens très bien d'être intervenu et d'avoir mon casque au ceinturon, au cas où il aurait fallu le mettre, et le calot sur la tête, et on nous a muni du bidule, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, cette grande matraque qui ressemble à un manche de pioche.
En début de soirée, de nombreux manifestants dispersés par la police se rejoignent, constituant un groupe de plusieurs milliers de personnes, boulevard Voltaire. Il faut à tout prix éviter la constitution de rassemblement. Les directives ont été données. Et pour cela, tout est bon, y compris la force. Les manifestants sont coursés, chargés, puis finalement coincés dans le métro Charonne.
Il frappait et tout en frappant, il disait « sale communiste, on va vous faire crever ».
Tous les matériaux, les pavés, tout ce qu'il pouvait trouver, il les jetait, mais en tapant fort sur les gens qui étaient entassés dans la station de métro.
Présente à l'époque, l'actrice Marina Vladi a eu la chance de pouvoir s'échapper.
J'ai couru, j'ai sauté un truc de séparation et je suis montée dans une rame. Et nous étions deux, il y avait un garçon et moi. Visiblement un garçon vigoureux aussi, comme moi je l'étais à 20 ans. Et on était verts et on ne pouvait plus respirer, on a failli vomir tellement on avait peur.
Hélas, tout le monde n'en ressort pas. Écrasé par la foule bloquée contre les portillons, 8 personnes, dont 3 femmes, trouveront la mort ce jour-là. Une autre ne survivra pas à ses blessures. La plus jeune victime a 15 ans, tous sont syndicalistes. Cet épisode tragique de violence d'État sera reconnu du bout des lèvres par les autorités françaises, d'abord par la mairie de Paris 20 ans plus tard, puis finalement par le président Emmanuel Macron en 2022. Ce lourd silence fait douloureusement écho à un autre, celui qui étouffera pendant des dizaines d'années la répression policière qui frappe la manifestation du 17 octobre 1961. Ce jour-là, des centaines de manifestants algériens avaient été tués ou noyés à Paris alors qu'ils marchaient pour soutenir l'indépendance de leur pays.
Vous êtes avec Radio SBS en français. SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et si une envie parfois je me sens oubliée. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais tu le serais.
Tout oublié, la chanteuse belge Angèle avec sa voix si iconique. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants. On parle de cinéma et du French Film Festival qui arrive notamment à Melbourne.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Marie-Hélène Prédhomme, qui est la General Manager de l'Alliance Française de Melbourne. Bonjour et bienvenue Marie-Hélène.
Bonjour Jean-Noël, quel plaisir de vous retrouver au début d'année, ça file.
C'est la première fois pour 2025, une très belle année à vous et à l'Alliance Française de Melbourne.
Merci, oui, avec plein de nouvelles choses de notre côté, même si ça va se dévoiler petit à petit, mais ça va vraiment être la grosse année de changement et de transition à l'Alliance de Melbourne.
On va parler surtout de l'Alliance française French Film Festival qui arrive à grands pas. C'est à Melbourne, c'est à partir de prochainement, en mars.
Oui, c'est ça. Pour Melbourne, ça va ouvrir le 5 mars. Et puis dans les jours précédents et suivants, dans toutes les autres villes qui participent en Australie. Et donc oui, pour nous, c'est déjà dans un mois en fait.
D'après ce que je comprends, plusieurs films de réalisatrices au menu de cette édition de 2025.
Oui, effectivement, je crois un tiers des films
réalisés par des femmes.
Voilà, c'est ça, sont réalisés par des femmes. Oui, on a quelques films, on a un tiers des films en fait qui sont faits par des femmes et aussi avec des femmes. Connue dans ces films. Et notamment, on aura quelques films comme Boléro, qui est en fait une biographie de Ravel, finalement, qui est vraiment chouette, fait par Anne Fontaine. On a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle en français Le Panache, en anglais Speak Out, qui est fait par Jennifer De Volder, qui est une chouette histoire de prof qui croit en ses étudiants et qui soutient le développement éducatif d'étudiants qui peuvent avoir des difficultés ou qui sont pas exactement comme tous les autres et qui aident à révéler leurs talents. Donc voilà, ça fait vraiment partie de chouettes films, comme aussi on a en plus avec Laure Calamy en actrice, mais fait par Anne-Sophie Bailly, on a Mon Inséparable, qui est un film sur le handicap et la gestion du handicap dans la famille et d'un enfant autiste qui grandit et qui est un adulte et qui peut avoir envie de faire sa vie et qui a les moyens et revendique de faire sa vie. Et donc la difficulté, je pense aussi pour les parents de voir ses enfants s'éloigner comme n'importe quel parent, mais peut-être encore plus quand on sait qu'on a un enfant qui a eu plus besoin de soi pour se développer. Voilà. Donc ouais, il y a plusieurs films comme ça et assez poignants.
Peut-on parler du film de l'Opening Night? C'est le film Monsieur Aznavour qui va inaugurer le festival.
Bien sûr.
Et en principe, je crois que le film de l'Opening Night, c'est un secret jusqu'à la dernière minute, mais on a connu le titre depuis des mois maintenant.
C'est ça, ouais, c'est ça. Vous l'avez su il y a deux mois, je crois, maintenant, ou un mois, mais le temps passe vite et est bien rempli. Oui, il a été annoncé surtout aux médias pour commencer. Et donc évidemment, ensuite ça a été diffusé. Ça va être Monsieur Aznavour. Pourquoi ça a été annoncé en avance? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a certains films, c'est pas la peine de faire durer le secret. En fait, tout le monde les attend. Et on est ravis de pouvoir confirmer qu'on les a non seulement dans le festival, mais qu'en plus on peut en faire quelque chose de grand. Et ce film est un grand film, vraiment. Il est moderne. Il parle de cet homme qui a dû s'installer, faire sa place comme fils de migrant dans un milieu et dans une époque où on voulait pas forcément d'eux, ou en tout cas il n'était pas très bienvenu. Il avait apparemment pas les talents courants pour être un chanteur, ce cher Aznavour, et pourtant il était têtu, clairement, déterminé et ouais, c'est vraiment un chouette film, super bien incarné avec Tahar Rahim. C'est réalisé anecdotiquement parce qu'on le voit pas à l'écran, mais par Grand Corps Malade et son ami Mehdi Idir. Et Grand Corps Malade, j'aime beaucoup ce chanteur et l'humanité qu'il porte aussi avec lui et dans son entourage. Mais ouais, c'est un super film, plein d'énergie, avec des beaux moments de chansons et des beaux rythmes et des remixes aussi qui sont assez impressionnants. C'est vraiment bien fait.
Je crois qu'en 2024, on avait fêté le centenaire de sa naissance.
C'est ça, j'espère ne pas me tromper avec vous. Mais oui, c'est ça, il était né en 1924, donc c'est ça. Voilà.
On va parler des special events que vous organisez chaque année, les soirées traditionnelles avec des thèmes particuliers, Ladies Night, la soirée gastronomique et tout ça.
C'est ça. Oui, on va avoir... donc Ladies Night, ça va être avec À vous jamais ou Riviera Revenge, qui est une chouette comédie. C'est amusant, c'est léger. C'est un peu parodié, donc on sait pas forcément de qui on se moque, si c'est de l'homme, de la femme, des deux. Donc forcément, en tant que femme, je préfère parfois me dire que c'est la femme qui prend le pouvoir sur son mari. En même temps, c'est aussi ça parle de l'évolution des hauts et des bas des mariages, de l'évolution de la vie, des relations parents-enfants, du fait de voir ses parents s'éloigner et se rapprocher. Voilà, tout ce qui se passe, en fait, je pense, même dans les meilleures familles. Et c'est un film léger qui vaut vraiment la peine et qui a un bon divertissement pour une soirée entre femmes, mais je suis toujours ravie quand je vois ces Ladies Night des maris ou des amis sans eux qui viennent avec leurs amis eux. parce que c'est, ça a beau être Ladies Night, je trouve que c'est chouette quand c'est partagé par nos amis masculins aussi.
Est-ce qu'il y a des soirées spéciales cette année-ci
Oui.
Du commun?
Alors oui, effectivement, au-delà de, donc on a Ladies Night, mais on a aussi le Taste of France, qui va être un Taste of, on va dire, France et Canada, parce que c'est un film, c'est une comédie et c'est un film canadien qui s'appelle Tout Stocké, All Stirred Up, pardon. Et c'est pareil, c'est une comédie, mais pas, enfin, assez légère, avec, qui parle encore une fois, bon, de l'enfance, de l'adulte, des relations parents-enfants. En fait, bon, c'est beaucoup la vie en général. Donc, on aura cette soirée-là, comme d'habitude, mais on va avoir une soirée de la musique qui vient au cinéma avec Boléro et une présentation du Boléro de Ravel avant le film. Donc ça va vraiment être une belle entrée en la matière dans le foyer du cinéma Kino, la Collins Place. Voilà, ça c'est une nouvelle soirée inhabituel qu'on va faire et qui va être forte en sensation, je pense, avec le Boléro qu'on pourra écouter certainement deux fois avant le film.
Est-ce qu'il y aura des invités qui vont venir de l'étranger?
Ah, ça, on espère, mais on ne sait pas encore. Ce sont souvent des longues discussions.
Ouais.
Donc pour le moment, non. C'est pas que je sais, je ne peux pas vous dire. Pour le moment, on continue à espérer. On va voir ce qui se présente. Vous inquiétez pas que dès qu'on le saura, on vous le partagera.
Et d'après ce que je comprends, il y aura un nouveau lieu en 2025 et ce sera à Ballarat où des projections
Oui.
de films auront lieu.
Oui, effectivement, en fait, cette année, on est content de pouvoir ajouter dans notre sélection de cinémas régionaux, au-delà de Bendigo.
Ouais.
Voilà, effectivement, on est à Bendigo un week-end de 3 jours, on va dire, vers mi-avril, à la fin du festival. Là, on va aussi avoir une sélection plus légère, mais étalé sur les 4 semaines,
ouais.
Sur 4 semaines, parce qu'à Melbourne ça va être sur 5 semaines, à Ballarat, dans le beau cinéma repris par Palace récemment, le Regent.
Palace Regent de Ballarat.
Voilà.
Un rendez-vous à ne pas manquer. J'ai parcouru le site et
oui.
Les gens parlent du Comte de Monte Cristo, un remake. Tant attendu, c'est ça?
Ouais, vraiment. Là, on aura plusieurs journées, on va dire, Monte Cristo, où le film va être projeté dans tous les cinémas de la ville à différents horaires. Donc, chacun pourra trouver chaussure à son pied. Et oui, c'est un magnifique film, évidemment. Bon, tout le monde a entendu parler de Pierre Niney dans ce film. Pas que lui, hein, y a aussi Anaïs Desmoustiers, il y a Laurent Lafitte, il y a différents grands acteurs, mais c'est vrai que c'est vraiment super bien incarné par Pierre Niney. C'est poignant, bon, comme l'histoire originale, hein, tout simplement. Aussi, c'est vraiment un beau conte de trahison et de vengeance. Bon, pas forcément que la vengeance soit toujours très bien, mais en tout cas là c'est bien mené, même si on sait vers où ça va. Pour ceux qui connaissent l'histoire, on se prend bien au jeu de voir comment ça va se passer. On aura plusieurs projections. La première va être avec un verre de vin pour célébrer cette sortie, et on ne doute pas que ça va effectivement amener du monde et des curieux, à la fois sur le compte, pour ceux qui connaissent pas forcément l'histoire, ou simplement de voir ce film phénomène.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/French ou téléchargez l'application SBS Radio.
Marcia Baila, bien entendu les Rita Mitsuko, groupe emblématique des années 80 en France. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Bonjour à toutes et à tous. Le mois dernier s'est tenu le traditionnel marché de Noël du lycée français de Sydney, le lycée Condorcet, et en marge de cet événement a été organisée une table ronde pour parler d'artisanat français et de sa place ici en Australie. Je vous propose tout de suite d'écouter cette table ronde. Elle est animée par ma collègue Richelle Harrison.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce panel de discussion sur le savoir-faire et l'artisanat français en Australie que nous organisons en marge du marché de Noël du lycée Condorcet, le lycée français de Sydney. Le « Made in France » et l'excellence de l'artisanat, nous avons ici de nombreux exemples de talents français qui ont su faire prospérer leur expertise ici en Australie. Certains sont d'ailleurs autour de cette table aujourd'hui, je vais vous les présenter dans quelques instants. Et nous avons également le plaisir d'avoir avec nous pour cette discussion l'ambassadeur de France en Australie. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, bienvenue.
Pour compléter ce panel, nous avons également la joie d'accueillir Élise Pioche-Banzac, fondatrice de Maison Banzac.
Bonjour. Oh, merci de m'avoir invitée.
Tiffany Vidal, artiste peintre, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Quentin Zer, chef pâtissier, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Et Christophe Hoppé, entrepreneur horloger, bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, chacun a sa spécialité, un parcours bien spécifique, mais ce qui vous rassemble, c'est que vous avez choisi de venir vous installer en Australie. Bienvenue à tous et entamons donc cette discussion. Alors, tout d'abord, parlez-nous de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené en Australie?
En fait, je travaillais dans la mode à Paris jusqu'à mes 28 ans. J'étais chez Hermès dans une société vénérable dans la capitale de France. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait vraiment que j'essaye de partir à l'aventure pour pousser mes limites et voir s'il y avait meilleur ailleurs. Et je ne voulais pas aller trop près. J'aurais pu choisir Londres ou New York, mais j'ai décidé d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire d'aller vers un point. Si je vais au-delà de ce point, je reviens en France, en gros, et c'est Sydney. Donc, je suis venue ici quand j'ai eu 28 ans avec un working holiday visa et je suis toujours là 20 ans plus tard.
Vous traînez ?
Donc, ma raison première, c'était un projet de famille. Mon mari était australien et il avait d'ailleurs été ici à l'école française. Et on a décidé avec nos filles de venir ici s'installer en Australie. Je voulais que mes filles grandissent dans un environnement anglo-saxon. Je pensais que ce serait plus bénéfique pour elles à l'avenir. Ouais.
Moi, c'est marrant par hasard. En fait, je travaillais au Palais de Meurice à Paris avec un pâtissier très connu aujourd'hui qui s'appelle Cédric Brouillet. Et en fait, j'avais travaillé 2 années là-bas. J'avais une expérience de 7-8 ans en pâtisserie. J'avais atteint tous mes objectifs et je me suis dit, bon, j'ai une belle expérience, un petit peu d'argent de côté. Qu'est-ce que je pourrais faire pour grandir? Et un nouveau challenge, donc je me suis dit, je ferai pas du tout anglais, mais vraiment pas du tout. Ce serait même partir à l'étranger, et je suis parti le plus loin possible. Ouais. Et puis voilà, sinon, c'est vraiment par hasard le sujet de l'Australie pour la météo, parce que j'avais jamais vraiment voyagé dans ma vie. Et je me suis dit, faire un grand voyage, enfin faire quelque chose que ma famille n'a jamais vraiment fait, ça serait cool. Et voilà, donc je suis allé ici par hasard, au moment le plus nouveau que je suis ici.
Comme Tiffaine, pour moi, Christophe, c'est l'amour qui m'a fait venir ici. En Suisse, c'était très sympa. J'aimais l'Australie, avant tout l'Australie. Je jouais avec mes garçons, mes enfants. On dit si, c'est quand même un beau pays pour grandir. Et moi, je suis un ancien du lycée français de Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, j'ai grandi en Arabie Saoudite. Et j'ai toujours eu l'habitude un peu de voyager ailleurs aussi.
Alors, quelle est votre définition du savoir-faire, Élise?
Une question que j'ai toujours aimée, notamment quand je travaillais chez Hermès, vraiment le savoir-faire, c'était quelque chose de très, très, très important. Et en fait, leur définition, qui est toujours la même, en fait, le savoir-faire, c'est l'excellence de l'artisanat, en fait. Et c'est comme ça qu'ils définissaient même la marque plutôt que l'appeler le luxe. Et en fait, savoir-faire, voilà, c'est une accumulation de traditions, d'expériences, d'excellence, d'attention aux détails, en fait. On ne précipite rien, on prend le temps. Et c'est vrai qu'en France, on excelle dans ce domaine-là. Donc, c'est un plaisir de l'exporter.
Mais je dirais que le savoir-faire, il se repose parfois sur des connaissances qui se sont transmises de génération en génération. Une connaissance approfondie du sujet, vouloir toujours atteindre une qualité supérieure, l'attention aux détails, c'est souvent un travail très lent parce que ça demande énormément de concentration et d'attention. Et je trouve que ça demande aussi une certaine culture générale pour savoir puiser aussi d'inspiration.
Moi, je pense que tout a été plus ou moins dit. C'est vrai que c'est plus une accumulation d'expérience, mais de bonne expérience. Je pense que c'est important pour construire aussi un savoir-faire, de s'entourer des personnes qui ont des grosses expériences dans des domaines bien précis. Donc, c'est ce qui permet justement d'exceller comme ça que j'aime.
Ouais, c'est un côté savoir-faire français, c'est vrai que là, dans les modes, dans la pâtisserie, dans les arts, enfin c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier d'amener ici en Australie.
Artisan, le statut n'a pas d'équivalent en Australie. A-t-il été difficile de faire reconnaître ici vos savoir-faire et vos compétences?
Oui, en effet, je trouve que le mot artisanat ici n'est pas tellement vénéré. On parle plutôt d'entrepreneuriat, donc ça englobe beaucoup de choses, notamment ce côté fait soi-même ou fait avec d'autres artisan qui vous aide à créer une marque, mais oui, je pense que si on n'est pas français et qu'on grandit qu'en Australie, c'est vrai que l'artisanat, je trouve que c'est pas aussi célébré et défini finalement.
J'ai une question pour vous, monsieur l'ambassadeur. Comment l'ambassade de France soutient-elle l'artisanat français en Australie? Il y a bien une campagne Make it iconic, choose France.
Le premier point, c'est en fait d'abord de faire reconnaître nos métiers d'art et nos savoir-faire. Ce que vous disiez, en fait, c'est qu'il y a vraiment une spécificité. Des gens qui sont très bien dans leur métier, on en a partout dans le monde, partout. Mais je crois qu'en France, on a réussi à pousser l'excellence jusqu'à en faire un art. Et d'ailleurs, on parle de métier d'art. Et au fond, c'est ça la différence entre la bonne gastronomie et la haute gastronomie, la joaillerie, la haute joaillerie. La capacité à pousser toujours plus loin dans l'excellence et de montrer à quel point ces savoir-faire sont aussi universels. Il n'y a pas de, on a des racines françaises, mais ils peuvent très bien s'exporter. C'est d'ailleurs un secteur qui exporte énormément, c'est plus de 8 milliards d'exportations. Donc, c'est un secteur économique à part entière, très fort. Donc, il appartient à l'ambassade de soutenir, d'abord à l'exportation, aux artisans qui sont en France et qui veulent découvrir de nouveaux marchés. Ce qu'on a fait d'ailleurs dans le métier des industries créatives et de culture avec les conditions et nations. On a eu beaucoup de start-up, de PME, d'articles qui sont venus ici, qui vont développer. Et puis, ici, c'est de pousser, de faire savoir et de faire connaître. Parce que, au fond, chacun et chacune ici montre à quel point il réussit dans son activité professionnelle. Nous, on est là, on est aussi pour pousser en équipe France. L'équipe France va être unie et elle doit pousser, faire connaître et célébrer les réussites, comme nous tentons de le faire, ou franco-australienne. Ici à Sydney comme partout en Australie.
Alors, de quelle manière l'Australie vous inspire-t-elle dans votre travail? Et parlez de vos inspirations.
Écoutez, je m'inspire des oiseaux australiens. Je trouve qu'ils sont tellement beaux. Ils représentent pour moi la magie de l'Australie. J'utilise des techniques de peinture botanique pour peindre mes oiseaux parce que j'aime montrer les détails. Les nuances de couleurs et j'aime agrandir le détail aussi pour vous montrer ce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de voir. On n'a pas toujours l'opportunité de voir un oiseau de près, voire même on n'a pas toujours l'opportunité de les voir puisqu'ils sont en voie de disparition. C'est aussi une manière pour moi de garder un lien avec l'Australie, de m'adresser aux Australiens et je suis toujours surprise de voir comment ils sont tellement impressionnée de voir mon travail et tellement reconnaissant, ça me fait vraiment super plaisir.
Ouais, qui agit.
Moi, ce qui m'inspire, en fait, c'est mon métier, c'est un métier quand même assez artistique, visuel, couleur, des saveurs, des textures. De nos jours, on a la chance d'avoir de plus en plus de nouvelles technologies. En l'occurrence, les imprimeries 3D On a la chance d'avoir des personnes qui développent des sociétés pour les moules en silicone personnalisés, par exemple. Donc, j'ai récemment, je suis plutôt encore en travail là-dessus, mais j'ai récemment développé avec une société, du coup, française, un moule en forme de l'Opera House de Sydney. Donc, j'aimerais bien, alors, ce sera plus une bail individuel, je l'ai aussi en mini. Mais j'ai pas encore le temps de vraiment peaufiner le, on va dire plutôt l'intérieur, en tout cas, le visuel est très ressemblant, c'est un visuel 3D. Ouais, je vois, on peut avoir pas mal de petites finitions à faire, mais moi, ce qui m'assure, c'est vraiment les formes. Mais en fait, qu'on présentait un peu le savoir-faire français, mais à travers des formes et des. En reproduisant des monuments, par exemple, d'Australie ou d'autres choses.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire souvenir familier. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, de mon enfant, France.
Douce France, chanson de carte de séjour avec le regretté Rachid Tah. Allez, courte pause et on parle d'histoire chinoise en Australie, l'histoire de la communauté chinoise donc dans notre beau pays australien.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire cachée de l'Australie. Aujourd'hui, on aborde la seconde partie de notre épisode consacré à l'histoire de la communauté chinoise en Australie. Je vous propose de démarrer tout de suite. On retrouve, comme d'habitude avec nous, l'historien Romain Fati. Et cette fameuse politique de l'Australie blanche, elle va être progressivement abandonnée au tournant des années 60. Et c'est à ce moment-là qu'à nouveau, des personnes au moins de culture chinoise, elles ne sont pas forcément nées en Chine, mais commencent à arriver de nouveau en Australie. En fait, pour la plupart, dans ces premières années, ce sont des gens qui fuient la guerre ou la dictature. Ils arrivent, par exemple, du Vietnam, du Cambodge, de l'Indonésie, et puis quelques années plus tard, plutôt donc dans les années 80, de Chine continentale, notamment après les manifestations réprimées dans le sang de la place Tiananmen.
Oui, tout à fait. En fait, vous avez un hiatus de l'immigration chinoise, mais aussi de l'immigration d'autres populations de couleur, entre 1901 et le début des années 70. C'est-à-dire que la communauté chinoise dont je vous ai parlé avant la fédération australienne, vous avez à peu près 40 000, 50 000 Chinois en 1899 en Australie. Et après, il y a un arrêt net. Vous n'avez plus le droit de rentrer. Si vous sortez, vous ne re-rentrez pas, sauf si vous êtes fait naturaliser, ce qui est à l'époque très compliqué. Et donc, en fait, la population chinoise en Australie diminue pendant plusieurs décennies. Vous savez, la politique de l'Australie blanche, quand elle a été votée et approuvée par les Australiens, il y a même eu des personnes de couleur dans le Queensland qui se sont fait renvoyer. Même des enfants qui étaient nés en Australie, dont les parents étaient arrivés là 15, 20 ans plus tôt, où ils se sont fait sortir du pays. Donc, ce sont des choses, des déplacements de population très violents. Et donc, dans les années 1910, 1920, 1930, 1940, l'Australie est vraiment une tête de proue de la discrimination légale d'État. On conçoit ce qui se passe en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, on conçoit l'apartheid en Afrique du Sud, mais ces politiques racistes sont également mises en place en Australie pendant assez longtemps. Alors, À mesure que les années passent, surtout avec l'effet de la Seconde Guerre mondiale et le développement d'institutions internationales, l'ONU par exemple, ces politiques racistes commencent à avoir très mauvaise presse, surtout dans la phase de décolonisation des années 50 et 60, où l'Australie essaye de devenir une sorte de middle power régional en Asie-Pacifique. Si bien qu'ils sont obligés progressivement de lâcher du mou, et aussi parce qu'en fait l'Australie cherche à se peupler. En 1945, vous avez 7 millions d'Australiens. C'est rien du tout. Et donc, en une vingtaine d'années après la guerre, ils vont multiplier par 5 leur population, et pour ce faire, utiliser l'immigration. Alors, de préférence blanche, mais aussi progressivement d'autres pays. Et donc, la politique de l'Australie blanche est démantelée, si bien que pour le début des années 70, votre couleur de peau n'est plus considérée dans votre demande de visa pour l'Australie, et progressivement est mis en place un système de permis à points. Ce qui est intéressant, c'est que le dernier gouvernement à avoir refusé des personnes ethniquement chinoises et qui fuyaient ce qui se passait au Vietnam, c'est le gouvernement de gauche Whitlam. Et qui est-ce qui laisse rentrer ces réfugiés? Ce sont des réfugiés au vrai sens du terme. Eh bien, c'est le nouveau gouvernement de droite de Malcolm Fraser. Et à partir de 1974-1975, vous avez un flux ininterrompu et qui progresse en termes numériques dans le temps d'immigration asiatique. Alors, j'entends toute l'Asie, mais progressivement de plus en plus de Chinois. Et vous avez mentionné les événements de Tiananmen en 1989. Effectivement, à l'époque, c'est très compliqué pour l'Australie de réagir vis-à-vis du géant chinois, parce que déjà, c'est un géant comparé à l'Australie. Et le premier ministre de l'époque, Bob Hawke, invite tous les étudiants chinois en Australie à rester et à faciliter leur démarche pour l'obtention de papiers, de sorte à ne pas rentrer dans un pays où ils seraient potentiellement persécutés. Donc, c'est ce signal-là. Il y a aussi des rapprochements économiques dans la fin des années 80 entre l'Australie et la Chine qui fait que l'immigration chinoise en Australie progresse de façon assez importante.
Vous venez de l'expliquer, effectivement, les années 60, 70, enfin, en gros, c'est à ce moment-là que l'Australie commence à prendre le visage qu'on lui connaît aujourd'hui, un pays très multiculturel avec des gens originaires de quasiment tous les continents et avec notamment une grosse présence asiatique. Dans cet épisode, on se concentre surtout sur la communauté chinoise, mais comme vous l'avez dit, c'est à cette même période que l'Australie s'ouvre à des gens venus notamment d'Asie du Sud-Est par centaines de milliers. Néanmoins, tout n'a pas complètement changé en Australie puisque c'est également à peu près à cette période d'ouverture à une immigration plus diversifié, que réapparaît un racisme anti-chinois et plus largement un raciste anti-asiatique qui sera incarné par Pauline Hanson et son parti d'extrême droite One Nation, qui est toujours d'ailleurs dans le paysage politique aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, pareil, pour resituer tout ça dans son contexte, les années 80-90 en Australie, c'est le grand moment de repentance vis-à-vis de ce qui s'est fait par rapport aux aborigènes, c'est les politiques du multiculturalisme, et donc le multiculturalisme, c'est cool, tout le monde vous l'explique, les politiciens, les acteurs, les actrices, les Australiens s'embarquent dans ce multiculturalisme de façon, disons, tout à fait authentique. Ils y voient des avantages, non seulement en termes de diversification du pays, mais aussi de ses capacités. Parce que quand vous avez des personnes qui parlent des langues différentes, qui ont des connexions à des diasporas différentes, ça fait avancer votre économie également. La nourriture, enfin, tout ça, les Australiens sont très contents. Mais vous avez un retour de bâton à partir du milieu des années 90. Et Pauline Hanson, maintenant elle est sénatrice, mais avant elle était députée, premier poste en 1996, et dans son discours inaugural, elle explique que, et je cite, « We are in danger of being swamped by Asians », c'est-à-dire qu'on... l'Australie, il y a un raz-de-marée asiatique en Australie. Si vous voulez. C'est éminemment raciste, ça passe évidemment très mal à l'époque, mais, ce parti va de succès en succès, si bien que le premier ministre de droite de l'époque se voit un peu siffler ses voix par l'extrême droite, et donc met en place des politiques migratoires un peu plus... même beaucoup plus dure et discriminante, mais cette fois-ci pas sur la race, puisqu'on ne peut plus le faire, mais sur d'autres critères qui finalement équivalent peu ou prou à limiter les personnes de pays qu'on ne désirerait pas. Et donc, effectivement, Pauline Hanson, comme d'autres politiciens d'extrême droite en Australie, dès le milieu des années 90, début des années 2000, alerte sur la présence de communautés asiatiques et surtout chinoises en Chine. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la peur de l'autre, elle est symptomatique de la colonisation australienne. Quand vous avez volé vous-même la terre de quelqu'un d'autre, vous savez très bien que quelqu'un d'autre peut le faire à son tour. Dans les années 1880, même avant, dans les débuts du 19e siècle, les Australiens ont peur que la France les envahisse. Et puis après, que les Russes les envahissent dans les années 1880. Rendez-vous compte, ils construisent des forts dans le sud de l'Australie pour se protéger de navires russes. Puis après, on a peur du Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de plan d'invasion des Japonais de l'Australie. Aucune utilité. Et puis maintenant, dans ce paradigme de complexe de Masada, si vous voulez, c'est la Chine. Et donc, il y a une réelle peur chez de nombreux Australiens. Alors, peur qui est justifiée ou pas, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, elle a une dimension performative parce qu'elle influence les comportements.
Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on dit souvent des Chinois d'Australie, comme d'ailleurs des communautés chinoises dans quasiment tous les pays où ils se trouvent, que ce sont des gens très discrets, qui font pas de vagues, qui ne revendiquent pas des droits ou des choses comme ça. Ils font leurs affaires dans leur coin et ils s'occupent pas de ce qui se passe ailleurs. Et pourtant, dans le cas de l'Australie, on sent bien que leur culture a influencé énormément le pays. Pour donner juste un exemple très anecdotique, l'une de mes spécialité, c'est les raviolis chinois. En Australie, les petits, la base pour faire les raviolis, je peux l'acheter dans n'importe quel supermarché. En France, même à Paris, il faut que j'aille dans une boutique spécialisée parce que on n'en trouve pas dans le Carrefour du coin, alors qu'ici à Woolies ou à Coles, il y en a.
Ouais, alors allez trouver de la harissa en Australie, hein, à part effectivement aller dans un magasin spécifique. Ce que je veux dire par là, Grégory, c'est que chacun a son immigration. Et que donc, suivant la géographie et suivant les conquêtes impériales, vous avez l'immigration qui est la vôtre. Et donc, effectivement, par exemple, en France, on sait bien que vous avez une communauté nord-africaine très importante, et c'est géographique et c'est historique. En Australie, la géographie, c'est l'immigration asiatique. Ce qui fait que, effectivement, vous avez, comme en France, on a des acteurs, des femmes et des hommes politiques d'origine diverse, eh bien, la communauté chinoise en Australie, c'est une communauté de premier plan, hein, même du point de vue de la Chine, hein, c'est une des diasporas les plus importantes dans un pays occidental. Et donc, vous avez de nombreux acteurs, actrices, journalistes. Les Chinois sont représentés dans tous les corps de métier en Australie. Et en fait, il ne s'agit pas de Chinois, il s'agit d'Australiens qui ont un héritage chinois. Donc, ça va être des Australiens dont les parents, les grands-parents, voire les arrière-grands-parents sont venus en Australie. Donc, c'est une communauté qui est totalement intégré à la fabrique même du tissu social australien.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.